Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous. The Wreck, du studio français The Pixel Hunt, est sorti le 14 mars 2023. Nous en avons parlé de manière plutôt enthousiaste 3 jours plus tard dans l'épisode 34 de cette saison de Silence en Joue. Le mois suivant, Florent Morin, fondateur de The Pixel Hunt, a voulu partager ses réflexions dans un texte sur Reddit suite aux ventes très limitées de son jeu, 2000 exemplaires toutes plateformes confondues. Il a voulu surtout expliquer pourquoi, malgré tout, il continuait à vouloir créer des jeux vidéo indépendants. Et c'est à notre avis une question fondamentale. Le jeu vidéo a besoin de ces titres qui explorent toutes ses potentialités, mais comment faire en sorte que ces derniers trouvent leur public quand ils ne rentrent pas dans les cases, quand ils ne sont pas immédiatement identifiables? Bref, on a voulu comprendre et approfondir tout ça avec Florent Morin, et c'est le sujet de l'entretien qui va suivre. Bon, je ne le précise pas à chaque fois pour les entretiens, mais ces épisodes-là sont aussi possibles grâce à vous, qui êtes nombreux à avoir souscrit à l'offre spéciale d'abonnement à Libération en soutien à Silence en Joue. C'est à 5€ par mois au lieu de 9,90€ et vous pouvez le faire sur offre.libération.fr/SOJ. J'arrête avec l'autopromo. Merci à vous et puis bonne écoute. Donc, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Florent Morin, fondateur de The Pixel Hunt, studio qu'on connaît, dont on a parlé dans Silence on Joue à plusieurs reprises, notamment pour Enterre-moi mon amour en 2017 et Inua en 2022, et puis plus récemment pour The Wreck au début de cette année 2023. Bonjour Florent.
Salut, vous avez parlé de tous nos jeux en fait, merci beaucoup.
Mais oui, on a parlé de ouais. Tous tes jeux. Pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai aussi le plaisir d'être accompagné par Marius Chapuis. Salut Marius.
Salut.
Je crois qu'on a fait des interviews à deux des fois où je ne t'ai jamais présenté en fait. Je me rends compte que Sam Barlow, je crois que tu t'es présenté à aucun moment dans l'interview, mais bon, c'était
vrai. Oui, bah après ça durait 3h30, il fallait gagner un peu de temps.
Il fallait gagner un peu de
temps. Ah, mais quand même.
Florent, donc on a parlé de The Wreck en début d'année et on a aussi parlé il y a un mois d'un post Reddit que tu as, enfin un post que tu as écrit sur Reddit. Pourquoi diable continuons-nous à créer des jeux vidéo indépendants? J'ai traduit why the hell en pourquoi diable. Je ne pense, je ouais. sais pas si c'est très exact,
mais c'est... sacrebleu,
sacrebleu. Par quelle diablerie continuons-nous à faire des jeux indépendants? On va commencer par là. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce post Reddit? Est-ce que c'est seulement le nombre de ventes jugées décevant ou est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis plus longtemps?
Non, mais ma mission sur la Terre, c'est de déprimer les gens au dernier degré. Donc tous les jeux que je fais sont incroyablement tristes et voilà. Et mes posts Reddit aussi. Non, mais blague à part, effectivement, on a eu une déconvenue. Je sais pas si je l'appellerais forcément une déconvenue parce que c'est pas comme si je m'y attendais pas du tout, mais on a eu des chiffres de vente sur la première le premier mois de The Wreck qui était pas fou. C'est vraiment un euphémisme. Et bon, on s'y attendait un peu parce que pour tout un tas de raisons dont on pourra parler plus en détail plus tard, mais néanmoins c'est pas comme si ça attaquait pas un petit peu le moral, quoi. On a travaillé plus de 5 ans sur The Wreck. C'était vraiment un projet de cœur, un projet dans lequel on a mis beaucoup de nous. Et donc, quand on le sort et qu'on se rend compte que bah, ça rencontre pas forcément un public aussi important qu'attendu, il y a toujours une déception. Une déception qui se transforme un peu en une forme de déprime, quoi. Mm-hmm. On n'est pas forcément très bien. Puis après, on a besoin de process ces émotions et de se poser un peu des questions qui sont importantes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, quel impact ça a sur nous au fond, et qu'est-ce que ça remet en question ou pas. Donc l'écriture de ce poste, c'était avant tout quelque chose d'un peu thérapeutique. Et puis tu sais, moi j'ai un point de vue d'une manière générale, et dans le monde du jeu vidéo en particulier, c'est qu'en fait toutes les choses qui t'arrivent à toi et qui t'affectent, il y a de fortes chances qu'elles arrivent à d'autres personnes et qu'elles affectent d'autres personnes. Et que si tu veux faire ton travail avec une certaine dose d'humanisme, le plus possible, il faut parler de ces choses-là, parce que si tu peux sortir d'autres personnes de leur solitude et leur donner les armes que toi tu as pu avoir pour faire face à ces questions, et aussi récupérer celles que ces autres personnes ont pu développer, parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur ce poste, il y a eu beaucoup de réponses et des discussions super intéressantes et des idées super intéressantes pour moi aussi. En fait, moi, je suis convaincu que c'est hyper utile et c'est hyper nécessaire quand on fait quand on a des boulots qui sont de l'ordre de la création, d'être complètement ouvert et transparent sur toutes les questions un peu difficiles qu'on peut se poser, parce que ça peut servir aux autres et ça peut nous servir à nous. Donc en fait, j'ai pas beaucoup réfléchi avant de faire ce poste. Je me suis dit, voilà, on a cette situation, voilà ce que ça me fait, j'ai besoin de le formuler et peut-être que ce sera utile à d'autres et peut-être que d'autres pourront m'apporter des éléments de réponse que j'envisage moi, pas parce que je tourne en boucle, quoi.
Comment tu réagis toi après la sortie d'un jeu? Est-ce que tu le détestes parce que t'as passé trop de temps dessus et t'en vois plus que les défauts, t'en as marre et il faut soigner un peu la sortie, mais quand même, oust. Et est-ce que la question des ventes ou non vient apaiser ou au contraire raviver un peu ces doutes, quoi?
Ben, je peux pas faire de généralité parce que j'ai pas du tout réagi à la sortie de The Wreck comme j'ai pu réagir à celle d'Enterrement mon amour ou celle de Inua. Celle d'Enterrement mon amour, c'était notre premier jeu, donc de toute façon, peu importe ce qui allait se passer, on était déjà hyper contents, soulagés, heureux d'avoir un jeu qui ait vu la lumière du jour et qu'on puisse partager avec le monde. J'étais un peu sur un petit nuage. Et puis ce qui est marrant, c'est que maintenant, en regardant un petit peu avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'une bonne partie des montagnes russes émotionnelles que sont la sortie d'un jeu était due à justement cette inexpérience totale. Par exemple, le jour où on est sorti sur mobile seulement au départ, et on a eu un featuring sur l'App Store. Et moi, j'avais une grille de lecture qui était déjà périmée en fait, qui était de me dire t'es featuré sur l'App Store, tu vas faire des ventes, c'est hyper bon, il y a des chances que le jeu marche bien. Et en fait, ça c'était vrai probablement en 2015. Ça l'était plus en 2017 quand on a sorti Enterrement mon amour. Donc je me suis dit ah bah c'est super, on est featuré, ça veut dire que le jeu marchait. Une semaine plus tard, on avait des ventes qui étaient pas très loin des ventes qu'on a eues sur The Wreck. Donc on peut pas dire qu'il a marché vraiment. Donc il y a eu ah super ah trop trop pas bien. Juste avant la sortie, on a eu un gros bug sur Android ah horrible. Puis on a réussi à le régler ah super. Donc c'était vraiment la sinusoïde. Qui a duré un certain temps. On a eu des nominations à des prix, on a gagné des prix, on a eu des articles qui nous ont descendus en flammes, d'autres qui nous ont encensés. Enfin, il y a eu ce truc de dire des hauts et des bas en permanence. C'est assez fatigant, mais tu t'en rends pas compte sur le moment. T'es complètement dopé aux endorphines et voilà, tu vis le moment. C'est super. Sur Inua, on savait qu'on proposait quelque chose qui était hors des sentiers battus, qui était pas facile. Qui était pas facile à marketer, à vendre, à identifier. Et donc moi je m'étais dit, soyons hyper philosophes avec ce jeu, n'ayons pas, essayons de ne pas avoir d'attente particulière. J'en avais un peu marre à la fin du jeu parce que bah ça faisait des années qu'on bossait dessus, que la production, comme toutes les productions de jeux vidéo, avait pas nécessairement tout le temps été hyper simple, qu'elle était arrivée pendant le Covid et que voilà c'était un peu chaud. J'étais hyper content du résultat auquel on était parvenu, hyper content de sortir le jeu, mais comme c'était notre deuxième jeu, comme c'était aussi une coproduction avec Ico et Arte, donc il y avait un petit peu l'investissement émotionnel était un petit peu comment
Différent.
dire, séparé en plusieurs groupes, donc moins intense personnellement. C'est probablement la sortie qui s'est le mieux passée pour moi parce que justement je me suis dit advienne que pourra. Le jeu est fait, on en est content, on en est fier. Maintenant, on verra ce qui se passe et la réception. Et elle a été plutôt très bonne. On n'en a pas vendu des caisses loin de là, mais au moins, on a fait un jeu qui, pour certaines personnes, a été très marquant. Et donc, bon, on était quand même très content de cette sortie. Pour The Wreck, c'est encore différent, c'est que c'est la première fois où j'ai un jeu duquel je suis toujours complètement amoureux. Mm. C'est-à-dire que j'adore ce jeu, je suis hyper content de ce qu'on a fait. Je peux encore y jouer sans avoir vraiment envie de jeter la manette à l'autre bout de la pièce. je le trouve vraiment... Enfin, je suis très très content. Je sais pas... comment je vais être capable de refaire un jeu ensuite duquel je serai aussi content que The Wreck. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu sors un jeu comme ça, t'as avant tout envie de le sortir pour le partager avec le plus de monde possible, parce que t'espères que ce que tu ressens toi et ta relation intime, et qui était partagée avec l'équipe, je veux dire, je peux pas parler à la place de d'Alex, de Peggy, d'Horace, de tous les gens des Color Swap, de tous les gens qui ont travaillé sur le jeu, mais j'ai l'impression que tout le monde était vraiment content de ce qu'on a fait, et donc pressé qu'il y ait le plus de gens possible qui y jouent, et de pouvoir entendre les avis des gens. Et on n'a pas été déçus, parce que tant les retours presse que les retours joueurs sont quand même pour la plupart extrêmement positifs, et que même ceux qui sont critiques totalement à raison, hein, en disant « Ouais, le gameplay est quand même pas hyper profond, c'est quand même... on sent qu'il y a des limites de production value, parce que le lip-sync, est, c'est juste des bouches qui s'ouvrent et qui se ferment, et c'est pas très convaincant, ceci, cela... » Enfin, plein de critiques qui s'entendent. Hyper souvent, elles sont quand même accompagnées de « Mais c'est une expérience qui est unique, assez exceptionnelle par son unicité, et marquante, et probablement que dans 5 ans, je me souviendrai encore de ce jeu. » Et moi, pour moi, en fait, c'est juste le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire que dans 5 ans, je te dis le nom de mon jeu, et tu te souviens, en fait, de des émotions que t'as eues. Et quand t'es dans cette situation-là, voir des chiffres de vente qui sont pas fous, quoi. Je le rappelle, là, au moment où j'ai écrit le post-reddit, on devait être à peu près à 2000 exemplaires, toutes plateformes confondues. Maintenant, on doit être aux alentours de 3000, 3500. C'est frustrant à plus d'un aspect. C'est frustrant parce que tu te dis, économiquement, comment est-ce que je vais assurer la pérennité du studio? Créativement, comment est-ce que je vais assurer l'indépendance qu'on a eue sur ce jeu-là, si je peux pas faire valoir un niveau de bancabilité assez haut pour que les investisseurs aient envie de me donner des sous pour faire le prochain. Et puis, juste intimement, merde, on s'est un peu foutu à poil dans ce jeu, on a envie qu'il y ait plein de gens qui puissent le voir, d'autant plus que ceux qui le voient semblent l'apprécier. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de faire un peu plus de bien que ce qu'on fait avec une audience limitée. Heureusement, je pense qu'il y a des réponses à ces trois problématiques, mais voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé à dire, qu'est-ce que je fais de toutes ces émotions? Soit je suis logoréique dans les podcasts et on m'arrête plus, soit j'écris un post Reddit
Tu peux faire les deux.
Raconter un peu ça. Tu peux faire... c'est...
Petite question pour préciser juste le cadre. On parle de The Pixel Hunt, on a l'habitude de dire c'est un petit studio parisien, mais c'est quoi The Pixel Hunt? C'est combien de personnes? Est-ce que c'est juste toi et le truc change en fonction des projets?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous préciser ça, en fait?
C'est plus vraiment parisien, c'est pas vraiment un studio, par contre c'est petit, effectivement. Alors, j'ai créé The Pixel Hunt en 2014 officiellement, en 2013 officieusement, après avoir été journaliste pendant 10 ans, et parce que j'avais envie de faire des jeux vidéo qui... pouvait parler du réel, alors pas forcément journalistique, même si En termes à mon amour avait quand même une dimension au moins documentaire, si ce n'est journalistique, mais qui parle du réel, parce que l'intérêt que j'avais pour le réel qui m'avait amené à être journaliste, il était toujours là, et j'avais envie de voir comment est-ce que les jeux vidéo pouvaient explorer ça d'une manière un peu différente avec leur grammaire à eux. Et je l'ai créé tout seul, parce que en fait je savais très bien que il n'y avait pas... en 2014, deux studios de jeux vidéo chez qui j'aurais pu faire ça. J'en connaissais pas, je voyais pas à quelle porte j'allais pouvoir taper en disant « embauchez-moi parce que je vais faire des jeux qui parlent du réel ». Donc j'ai créé cette structure plus ou moins contraint et forcé pour faire ce que j'avais envie de faire, en gros. Je suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, personne autour de moi n'a créé d'entreprise, et je t'avoue que aujourd'hui encore, quand je parle avec d'autres chefs d'entreprise de comment je gère The Pixel Hunt, ça fait cauchemarder pas mal de monde, parce que c'est pas vraiment pas mon truc du tout, quoi. Enfin, c'est, voilà. Et donc, on a fait de la presta d'abord pour des clients. Quand je dis on, en fait, Effectivement, The Pixel Hunt, c'est majoritairement moi tout seul, dans mon coin. Et d'abord, pendant longtemps, ça a été une SAS unipersonnelle. Mais ce que je fais, c'est que, selon les projets, je vais composer des équipes. Soit des équipes faites de prestataires qui sont des d'autres entreprises que je mets ensemble pour travailler ensemble. Soit avec des travailleurs indépendants, qui sont des freelances, en graphisme, en game design, en écriture. Et vraiment, je conçois les équipes en fonction des projets. Ce qui était au départ hyper utile, parce que comme on faisait de la prestation, les clients avaient absolument jamais les mêmes demandes.
Ouais.
Parfois on voulait du web, parfois on voulait du Unity, parfois on voulait du pixel art, parfois on voulait du réaliste, parfois on voulait, etc., etc. Et donc, par essence, c'était beaucoup plus facile d'aller fabriquer des équipes et puis être la colle qui permettait de faire l'interface avec les demandes du client et d'assurer un niveau de qualité qui était constant, plutôt que d'avoir une équipe en interne à qui j'aurais demandé un jour ça, le jour d'après ci, et qui aurait probablement été malheureuse de ne pas pouvoir creuser un petit peu dans une direction précise. Sauf qu'en 2016, on a basculé d'une activité de prestation vers une activité de « on fait nos propres jeux » avec « Enterrement mon amour ». Mais que moi, j'ai pas fondamentalement changé de philosophie, ne serait-ce que parce que je suis pas un chef d'entreprise, pas un vrai, et que avoir un vrai studio avec une équipe de X personnes et devoir absolument trouver le moyen de les de pouvoir payer leur salaire à la fin du mois, y compris quand on fait des jeux qui marchent, vous l'aurez compris, comme ci, comme ça, c'était hyper compliqué, et que moi, courir après de la prestation et demander à des gens que j'ai embarqués avec moi sur Enterrement mon amour, d'après aller travailler en presta pour d'autres studios, voire de faire carrément des jeux corporate, etc. En fait, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, en fait. J'ai envie que le contrat entre les gens avec qui je travaille et moi soit clair. Donc, si je te fais venir pour travailler sur The Wreck et que ça te charme, c'est pas pour ensuite, un an et demi après, te dire on va prendre les portages de consoles de tous les studios parisiens parce qu'il faut qu'on bouffe et il faut qu'on paye les factures. En fait, moi, j'arrive pas à... Enfin, ça m'inquiète, ça me fait trop peur, en fait. Je peux pas faire ça. Donc, les projets de The Pixel Hunt, à chaque fois, ça a été... J'ai construit une équipe autour du projet qui a permis à chacun des trois projets d'avoir... Enfin, je dis « j'ai », mais en l'occurrence, pour... Inua, c'est plutôt Igal Cohen de Ico, le coproducteur qui s'en est occupé, même si on en a discuté ensemble. Sur Enterrement mon amour et sur The Wreck, c'est moi. Et les trois jeux sont quand même très différents, sous plein d'aspects. Ils ont une ADN, il me semble, commune. Il me semble que ça transparaît quand on joue aux trois jeux. Mais visuellement, au niveau du gameplay, au niveau de l'approche, il y a quand même des choses qui sont assez différentes. Et c'est pour cette raison. C'est parce que The Pixel Hunt, c'est protéiforme, et que c'est vraiment le projet qui fait l'équipe, et pas l'inverse. Je vous dis ça, mais en fait, là, pour le prochain projet qu'on a, parce que malgré tout, on va pas se laisser abattre pour si peu, on a quand même Alexandre Grietta, le DA de The Wreck, qui rempile, et a priori, au moins aussi les Color Swap, les Sound Designers, qui vont aussi faire partie du nouveau projet. Donc quand même, là, on a une continuité.
D'accord.
Même s'ils sont, ni l'un ni l'autre ne sont salariés de The Pixel Hunt.
Pour revenir à ton post Reddit et aux ventes dont tu as parlé juste avant, tu racontes et tu précises dans ton post Reddit que tu savais dès le départ que ce serait compliqué à vendre, d'une part parce que c'est un jeu du réel, et d'autre part parce que le genre qui se rapproche le plus de The Wreck, tu l'expliques dans ton post, c'est le visual novel. Même si c'est pas exactement la même chose, et que s'il y a bien un genre qui ne vend pas, d'une manière générale, il y a des exceptions évidemment comme dans tous les genres, mais c'est le visual novel. Donc ce que je veux dire, les 2000 ventes au moment sur le premier mois et 3000-3500 aujourd'hui, est-ce qu'on est, par rapport à des attentes que tu peux avoir en tant que créateur, est-ce qu'on est quoi ? On est en dessous de la fourchette basse ? On est dans la fourchette basse ? Quand tu créer un jeu dont tu sais que ça va être difficile à vendre, est-ce que tu as des estimations ? Est-ce que ça marche comment avant la sortie ?
Ouais, évidemment. On a fait des forecasts, on appelle ça. Dans le jeu vidéo, on aime bien utiliser des mots anglais. On a fait des prévisions de vente, basses, moyennes et hautes. Et on est à peu près au niveau des estimations les plus basses, voire en dessous. Donc, effectivement, on a fait cette gymnastique-là, y compris en prenant en compte et le thème et le genre. Et malgré tout, bon, c'était pas forcément à la hauteur. Et c'est d'autant plus, comment dire, étonnant que on a quand même fait beaucoup pour le marketing. On a eu quand même des opportunités intéressantes. On avait quand même un niveau de wishlist qui était quand même assez élevé. Donc, le risque, on avait eu l'impression de l'avoir quand même plutôt raisonnablement mitigé. Mais là où tu as raison de mentionner cette histoire de genre, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est quand même très répandu dans les discussions autour du marketing de jeux vidéo, et que moi j'avais un peu tendance, avec toute la morgue qui me caractérise, et probablement la fatuité, à me dire oui, mais si on fait un bon jeu, enfin le truc classique, hein, si on fait un bon jeu, même s'il colle pas exactement dans les cases, il devrait trouver son public. Eh ben, il semblerait qu'en fait, quand même, malgré tout, ces questions de genre soient, même quand t'as l'impression d'avoir fait un bon jeu, parce que ça se trouve, ça n'est qu'une impression, elles soient prévalentes, et que quand tu t'inscris dans un genre, particulièrement dans un genre qui est aussi niche que le visual novel, tu rajoutes un problème à un problème, parce que du coup, il faut que tu sois dans les codes du genre. The Rec, c'est un visual novel parce que c'est pas très interactif, que ça raconte avant tout une histoire et que il y a une attention faite portée au personnage et que tes choix te permettent de polir ton personnage, etc. Mais ça n'est pas un visual novel parce que le style graphique n'est pas le style classique qu'on identifie dans le genre du visual novel. Parce que le gameplay d'exploration des mémoires est pas un gameplay qu'on trouve dans les visual novels, parce que c'est probablement moins à embranchement que la plupart des visual novels qui sont ceux qui ont eu vraiment du succès dans les années qui viennent de s'écouler. Donc en fait, on s'est identifié à un genre qui était malgré tout avec le Walking Simulator le plus proche de nous. Mais enfin, on marche pas dans The Wreck, donc c'est dur d'être identifié comme Walking Simulator. Et on n'avait pas, voilà, on cochait pas certaines des cases qui étaient essentielles. J'ai posté il y a quelques mois avant que le jeu sorte, j'ai testé un petit peu la température sur des subreddits de visual novel, et je me suis fait défoncer par des gens qui disaient le style artistique est hyper moche. Et je regarde mon jeu, je crois pas que le style artistique soit hyper moche, vraiment pas. Je crois par contre qu'il est hyper pas du tout dans les codes du visual novel, et ça c'est clair, hein, c'est la vérité. Donc voilà, j'ai un peu fait le malin en me disant oui, mais les genres sont faits pour être dépassés. Il semblerait que si tu veux survivre, pas tant que ça en fait.
Il y a une partie du mur qui est liée au joueur, en fait, c'est ça? Au manque de, enfin, sans
C'est la
vouloir
faute
jeter
aux
la,
joueurs, ils
non
sont
non, mais
bêtes.
sans vouloir jeter la, non non, mais c'est une vraie question que je me pose, c'est sans vouloir jeter la pierre sur les joueurs, parce qu'on l'est aussi, et on a, il y a un... est-ce qu'il y a un truc qui est propre aux jeux vidéo qui serait un, peut-être pas forcément un manque de curiosité, mais un besoin de retrouver ses habitudes quand on achète un jeu et de savoir exactement où on met les pieds?
Je sais pas à quel point c'est l'époque qui veut ça, ou à quel point c'est des décennies de marketing autour de l'entertainment et le défouloir et l'escapism qui veut ça. Mais j'ai l'impression que il y a un côté doudou dans le jeu vidéo. Et il y a un côté, je vais quand même aller chercher des jeux qui vont me donner plus de ce que j'ai déjà apprécié beaucoup, et je vais un peu creuser dans un genre parce que ça me rappelle des souvenirs qui sont des souvenirs liés à des super bons moments, parce que j'ai kiffé, parce que j'ai eu voilà des décharges d'hormones du plaisir, et que j'ai envie d'en retrouver. Et donc j'ai l'impression que les joueuses et les joueurs, et ça me fait mal de faire des généralités parce que il y a probablement plein d'exceptions, mais la masse est quand même un peu conservatrice. Et que elle veut bien qu'on lui secoue les puces si elle est sûre aussi de retrouver quand même plein de choses qui font qu'elle va se sentir en territoire connu. Je pense que le nouveau Zelda, avec son crafting dans tous les sens et son côté hyper émergent, marche. Parce que c'est des mécaniques quand même un peu innovantes, même si on a vu que elles ont déjà existé dans d'autres jeux auparavant. Mais bon, quand même, c'est un peu osé pour un Zelda. Mais ça reste un Zelda. Ça reste hyper proche quand même de plein de choses. Ça reste Link, ça reste Hyrule, ça reste un territoire hyper connu. Et donc là, on peut innover dans un gameplay qui, pour une partie, va être un peu déroutant. Mais parce qu'il y a 90% de la proposition qui est hyper connue. Après, quand on est complètement indépendant et qu'on propose une propriété intellectuelle nouvelle, je pense que la marche pour réussir à séduire, elle est hyper haute. C'est possible, hein, tu vois, sinon il n'y aurait pas des Lucas Pope, il n'y aurait pas des Disco Elysium, il n'y aurait pas des indés qui arrivent avec quelque chose qui est complètement sorti de nulle part et qui est un énorme succès. Donc c'est possible, mais la marche est hyper haute, et nous, on n'avait pas le talent, la force de proposition, peut-être la hype, peut-être les connexions nécessaires pour passer cette marche-là. Quoi.
Et du coup, le prochain, c'est un Rock Deck Builder?
tu crois pas si bien dire. Non, mais le prochain, c'est un RPG avec... évidemment toujours du narratif, évidemment toujours un peu d'innovation, mais qu'on mettra probablement moins en avant, et probablement qu'on va essayer de mettre beaucoup plus en avant des mécaniques de RPG. Tu crées ton personnage, t'as une feuille de stats, t'investis tes points d'XP, ça te permet d'ouvrir ou de fermer des portes narratives, et t'as un objectif clair qui est d'atteindre, en l'occurrence, une destination, parce que c'est un jeu qui se passe, c'est un road trip, et tu vas vouloir atteindre une destination.
Pour le coup, le choix de se porter sur du RPG, c'est un truc conscient, en se disant, là, les joueurs ont des repères, ou c'est de toute façon quelque chose vers lequel t'étais attiré ou...
Heureusement, c'est les deux. Heureusement, c'est les deux, ouais. C'est-à-dire que ça fait longtemps que faire un jeu avec beaucoup plus de morceaux qui bougent me faisait envie, et me faisait aussi un peu peur, hein, parce que c'est pas les mêmes... C'est dur, c'est vraiment très dur d'avoir quelque chose d'équilibré, de convaincant et de fonctionnel... Plus t'as des parties qui bougent, plus t'as de morceaux qui bougent, plus tu peux avoir des cas à la marge qui vont devenir hyper chiants. Et t'as pas envie que le joueur se fasse chier, en fait. Mais évidemment, avec l'expérience de The Wreck, c'est aussi l'occasion qui fait le larron. Et je me suis dit d'accord, ok. Si on doit essayer, essayons de faire quelque chose qui est plus clairement identifié, qui est dans un genre qui est plus porteur. Qui est dans un genre qui, en plus, dans le passé récent, a montré qu'il y avait, pour le coup, de la place pour des propositions un peu originales du moment qu'on respecte certains codes, avec Disco Elysium, avec Citizen Sleeper, avec I Was a Teenage Exocolonist, mais aussi des trucs dont je pensais qu'ils allaient marcher et qui n'ont pas autant marché que ce que je pensais. Par exemple, le premier jeu qui a été published par Dontnod, qui s'appelle Gerda, je crois.
Oui, Gerda, ouais.
J'étais étonné, parce que je pensais qu'il y avait là des dimensions hyper intéressantes de RPG relativement clairement identifiées, et je crois que, de ce qu'on voit en tout cas sur la page Steam, ça n'a pas l'air d'avoir énormément marché. Ça a quand même mieux marché que The Wreck. Hein. Mais donc avec aussi des challenges de savoir comment est-ce que tu vas le présenter pour que ça accroche. Mais donc heureusement il y a les deux, quoi. À la fois j'avais envie, et à la fois c'est une opportunité. Il y a un côté un petit peu pragmatique, quoi, dans cette décision.
Dans la liste des bâtons dans les roues que tu t'es mis toi-même avant de lancer The Wreck, on a parlé du fait que c'était un genre qui n'était pas identifié, que c'était un jeu du réel. Il y a un sujet, tu le dis sans le dire, c'est le fait d'être auto-publié.
Mm-hmm.
Est-ce que ça a été un handicap ou pas? Est-ce que, a posteriori, tu penses que partir tout seul dans une aventure comme The Wreck, que nous, en tant que journalistes, en tant que critiques, par exemple, tout de suite, on s'est dit, tiens, pourquoi pas Annapurna, pourquoi pas des éditeurs qui sont reconnus un peu pour faire des jeux dans cette ambition-là. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment dans la sphère indé, un éditeur peut aussi servir de label, peut aussi servir de moyen de reconnaissance. Est-ce que le fait de partir seul, déjà, c'était un choix et une exigence de ta part, et est-ce que a posteriori, tu penses pas que ça a pu aussi jouer dans le manque de reconnaissance publique?
Ouais, si, c'est clair. En fait, au départ, j'ai contacté des éditeurs, et notamment Annapurna dont tu parlais, qui étaient très intéressés par le projet. La discussion est allée assez loin. Et finalement, ça s'est pas fait de manière un peu. La discussion, pour le coup, même alors qu'elle est allée assez loin, s'est terminée de manière un peu brutale. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un mail où ils m'ont dit, bon bah, finalement, on a décidé de passe quoi, de laisser tomber. Je me suis rendu compte un peu plus tard qu'ils avaient sorti Insight, et je pense que une des raisons que j'ai envisagé après pour ce refus, c'était que dans Insight, donc c'est un jeu aussi qui parle de souvenirs, d'une histoire un peu intimiste, du réel et tout, il y avait probablement trop de proximité avec The Wreck, et que dans le catalogue, avoir deux jeux comme ça, l'un à côté de l'autre, ça aurait probablement été un peu compliqué. Mais je suppute complètement, hein, je sais pas, ça se trouve, en fait, ils se sont juste dit, non, en fait, c'est nul, on passe, et ça, c'est possible aussi. Et donc après, on a eu cette opportunité de se rapprocher de Column Knights. Column Knights, c'est un fonds d'investissement qui investit sur des jeux, pas sur des entreprises. Et pour le coup, Alexis Garavarian, qui est un peu le boss, même s'ils prennent leurs décisions de manière collégiale, avait adoré Enterrement mon amour. Et donc, il nous a fait confiance. Et le deal de Column Knights, c'est... nous, on n'est pas un publisher, on vous aide à financer le jeu, mais après, c'est à vous de vous débrouiller pour le publier. Et moi, j'avoue que à l'époque, je me disais, étant donné qu'on fait des jeux du réel et que c'est hyper compliqué à vendre, pour un publisher normal, modulo 2 ou 3, comme à la Purna, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup des publishers comme à la Purna. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup.
Et ouais, on a essayé de les lister.
Et vous êtes arrivés à 2.
Ouais, enfin, il peut y avoir du Rofuri, du Good Shepherd, voire du Dontnod aujourd'hui qui se lance un peu là-dedans, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ouais. c'est très limité dans l'éventail des publishers qui pourraient partir avec The Wreck. Ouais.
C'est ça. Et donc. Je me suis dit, moi, je pense que les jeux qui parlent du réel, ça pourrait être une famille, je veux pas dire un genre, parce que justement dans le gameplay, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de variétés, mais une famille à part entière. Mmh. Et ça me dirait bien, avec The Pixel Hunt, de créer un genre de label, tu vois, quelque chose qui pourrait aider d'autres créateurs et créatrices à faire exister leur jeu. Et donc pour ça, l'expérience de l'auto-édition me semblait hyper utile, de me frotter moi-même à la difficulté de la chose. Bah, je suis pas déçu, hein. J'ai bien vu qu'effectivement c'était très difficile et qu'il y avait plein de choses qui étaient pas auxquelles j'avais pas réussi à trouver des réponses les plus appropriées. Je pense que il y aura un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec plus de titres au catalogue, plus d'expérience, on doit pouvoir arriver à avoir ne serait-ce que, tu vois, une base de joueuses et joueurs qui nous identifient plus clairement, qui vont être intéressés parce qu'ils ont adoré un des jeux précédents, et qu'on avait sorti que, nous tout seuls, on avait sorti que En termes de mon amour, donc, et c'était en 2017. Donc voilà, on était un peu faible de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, pour notre prochain jeu, j'ai envie de te dire, j'aimerais quand même bien signer avec un publisher proche de ce qu'on fait, parce que j'ai envie de faire de l'espionnage industriel, et de voir comment est-ce que des gens qui savent vraiment ce qu'ils font, font, et qu'est-ce qu'ils mettent en place. Ceci dit... J'ai eu des retours de gens qui ont travaillé et avec Annapurna et avec Rofuri et avec Good Shepherd, et il y en a qui ne tarissent pas d'éloges, et il y en a qui disent que ils ont eu l'impression qu'on avait pas donné à leur jeu sa chance. Donc je pense que c'est pas non plus une recette miracle pour te donner enfin, probablement que si tu choisis bien ton publisher, tu t'en sors quand même mieux, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si on avait signé avec Annapurna, si The Wreck aurait été un peu plus un succès, beaucoup plus un succès, ou un énorme succès, ou un fail encore pire que ce qu'on a fait nous, quoi. Même si je ne pense pas qu'on a fail, je tiens à le dire.
C'est important.
J'ai sorti un peu les violons avec mon poste, mais honnêtement, il faut se rendre compte d'à quel point le marché du jeu vidéo aujourd'hui est extrêmement dur. Et que donc, vendre quelques milliers de jeux, ça te place dans le dernier décile. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que on a sur Steam probablement entre 80 et 90% des jeux qui sont sur Steam aujourd'hui qui ont vendu moins que The Wreck. Donc c'est quand même c'est quand même quelque chose qu'il faut.
Quasiment au même moment que ton poste, il y a Laurent Victorino, donc le créateur de Monkey Moon, qui postait sur Twitter un message qui était à peu près aussi joyeux. Où il disait, dorénavant, le but de la plupart des devs indés n'est pas de faire de l'argent, ni même de parvenir à l'équilibre, c'est de trouver un moyen de sécuriser de l'argent au moment de la production. De fabriquer quelque chose tout en sachant qu'on fera plus d'argent en le faisant qu'en le vendant. Et il rajoute, c'est une bascule un peu étrange et ça dit beaucoup de choses sur notre industrie. Est-ce que toi, t'es arrivé au même... Enfin, cette même vue qui est quand même assez sombre, qui consiste à dire que, de toute façon... Quoi qu'on fasse, les jeux, ils se vendent pas. Enfin, il y a pas, même si les jeux sont bons, même s'ils sont nouveaux et identifiés, ça suffit pas à faire vendre des jeux. Et si on veut continuer à exister, il faut qu'on réussisse juste à faire des jeux sans en perdre d'argent, quoi. Mais juste au moment de la fabrication.
Mais moi, en fait, j'ai toujours pensé ça. Depuis que je fais des jeux, mon objectif a toujours été de me dire. Je vais essayer de réunir les conditions pour que le jeu se fabrique, se fasse, et je vais pas vivre de l'exploitation commerciale de ces jeux. Et je pense que c'est à la fois hyper compréhensible, comme je vous dis, j'ai toujours pensé comme ça, et à la fois complètement idiot, en fait. C'est-à-dire que on peut pas partir du principe que nos jeux ne vont pas se vendre, parce qu'en fait, on voit hyper vite la limite de la chose, c'est que les gens qui peuvent nous les financer, c'est pas des philanthropes, hein. Ouais. Et qu'au bout d'un moment, ils vont pas continuer à financer des jeux à perte en essayant de, par ailleurs, gagner de l'argent pour que nous, on existe. Il y a une dimension un peu trop narcissique là-dedans. C'est-à-dire, certes, on a des propositions intéressantes. Les jeux de Monkey Moon, ils sont exceptionnels dans ce qu'ils proposent. Uniques, absolument. J'ai la fatuité de penser que ceux de The Pixel Hunt aussi. Néanmoins, on sait bien que... les Raw Fury, les Hollow Knights, les Annapurna, les machins, ils nous attendent pas pour révolutionner la phase du jeu vidéo. Donc ça peut pas durer éternellement que on trouve à chaque fois qu'on veut faire un jeu des gens qui vont nous donner des centaines de milliers d'euros en se disant ça vendra pas. Malheureusement, parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait un service public du jeu vidéo. Hein. Et d'ailleurs. Le fait qu'on ait en France à la fois des mécaniques de financement hyper chouettes pour nous et des acteurs comme Arte, je trouve ça vraiment 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 génial. Et je pense que si dans les 10 dernières années il y a quand même un bon paquet de jeux d'une très bonne qualité qui sont faits en France, il faut pas aller chercher bien loin. Je pense que c'est une des raisons. Elle est là. Je sais pas ce à quoi Fortez, dont on parlait tout à l'heure, a pu prétendre en termes de financement public, mais je pense que ça a dû aider. Et un jeu comme Fortez, on est vraiment... Le jeu vidéo, dans son ensemble, est vraiment mieux maintenant que ce jeu existe, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec Laurent, et en même temps, je me dis que il faut qu'on arrive à trouver quand même un moyen de vendre nos jeux, parce que on pourra pas... refaire le coup pendable au publisher éternellement. On va finir par être grillé. Alors peut-être que nous, on va juste se dire, on est vieux, Laurent et moi, c'est bon, on arrête, on va faire, on va trouver un boulot alimentaire, on laisse tomber le jeu vidéo. Finalement, on est des dinosaures hein, dans l'industrie. C'est une industrie qui brise les gens assez vite quand même. Ouais. Donc Et d'autres personnes pourront refaire le coup parce que eux, ils auront pas le bagage de gens qui perdent de l'argent que Laurent et moi on peut avoir. Ou alors, on essaye de faire un petit twist. Et d'ailleurs, avec Flatile, Laurent, quand même, avec le côté builder, le côté jeu de gestion, il avait quand même aussi cette fait ce geste vers un genre qui est plus clairement identifié et plus... Bon, ça a pas marché à la hauteur de ses espoirs et du coup, peut-être que, tu vois, ça marchera pas non plus quand nous, on essaiera de le faire avec notre RPG et qu'on finira par lâcher l'affaire. Mais je pense qu'on peut pas complètement... Enfin, il faut quand même qu'on garde cette envie d'essayer de faire des choses qui sont un peu plus en accord avec le marché parce que ou alors on se dit allez c'est bon fuck it j'en fais un dernier c'est mon feu d'artifice et après je fais autre chose je me fais oublier pendant 10 ans et je reviendrai plus tard quoi je sais pas.
Dans quelle mesure le marché du jeu indé ressemble ou pas au cinéma art et essai? Avant l'indé c'était quelque chose de très petit ou enfin il y a 10-15 ans c'était des petites initiatives individuelles presque et de temps en temps ça marchait et c'était une énorme surprise et mais peu à peu, c'est moins indé, plus alternatif, on va dire. C'est des créations plus ambitieuses, plus coûteuses. Et oui, il y a le CNC qui est là pour aider, pour participer, mais on a l'impression que le marché un peu enfin, en tout cas français, peut pas compter sur une structuration exactement identique au cinéma art et essai, où il y a quand même un public qui est assez identifié, où il y a un réseau de salles. Où il y a un réseau de journalistes aussi. Dans quelle mesure le jeu vidéo est complètement différent parce que de toute façon les journalistes, on a vu, ça n'a plus vraiment d'importance dans cette sphère-là. Les joueurs, de toute façon, réfléchir en termes nationaux, ça n'a pas trop de sens pour le jeu vidéo. Enfin, je sais pas, est-ce que la comparaison a quelque chose de significatif ou pas du tout?
Moi, elle me semble hyper significative. J'ai pas beaucoup réfléchi à la question. Alors peut-être que j'occulte tout un pan de ces deux industries qui ferait qu'elle serait complètement inepte. Mais en tout cas, dans l'état actuel de ma réflexion, elle est complètement valide. Et je pense que la grande différence, c'est la reconnaissance culturelle autour de ces deux formes d'expression artistique. Et là où le cinéma a su, de par son histoire, de par son évolution, de par tout un tas de raisons, s'inscrire très clairement en tant que produit culturel, et donc avec un véritable soutien presque sociétal de l'importance de ce que c'est que cette production. Je veux dire, même les gens qui critiquent les films français, les Français qui critiquent les films français, il y a presque toujours un petit peu une part de chauvinisme où, ouais, c'est des films super chiants, télo, relous, j'en ai marre, mais quelque part,
Il y a
voilà,
une
on est...
conception de ce que c'est que le cinéma
C'est
français,
ça,
même si elle est tronquée, ouais.
et on aime bien le détester, tu vois. Parce qu'il y a Cannes, parce qu'il y a les stars, parce qu'il y a la nouvelle vague, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont ancré hyper fort le cinéma... En général, et le cinéma d'art et essai, particulièrement en France, mais en fait, ça existe même, tu vois, dans plein de pays, ça a ancré ça dans la culture. Et c'est marrant parce que figurez-vous que par une sérendipité un peu bizarre, je regardais un clip du STJV sur YouTube, et YouTube, l'algorithme m'a proposé ensuite l'audition du SNJV à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas plus opposé comme vidéo, mais bon. Et du coup, moi, j'étais chaud, je me suis tapé. Et Nicolas Gault me disait, on est une industrie qui est quand même particulière, qui est que une bonne partie des Français jouent, mais ceux qui jouent pas, pour une énorme partie d'entre eux, ne jouent pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et même si grâce au téléphone portable, des personnes disent qu'elles ne jouent pas et en fait jouent. Personne ne va te dire je lis rien, je lis aucun livre jamais. Personne ne va te dire je regarde aucun film jamais. Mais plein de gens vont te dire je joue pas du tout aux jeux vidéo et ça m'intéresse pas du tout et c'est vraiment pas du tout mon truc et j'accroche pas du tout, etc. Et je pense que ça, c'est dû au fait que le jeu vidéo est beaucoup moins identifié comme étant un produit, une œuvre culturelle que la littérature peut l'être, que la photographie, la peinture, le cinéma, même les séries télé et même les bandes dessinées peuvent l'être aujourd'hui. Et du coup, quand on a d'un côté une industrie du jeu vidéo qui s'est développée, qui a des enjeux commerciaux énormes, et qui a la possibilité quand même de financer des productions plus ambitieuses aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, mais que de l'autre côté, t'as toute une partie du public qui pourrait être le public de ces productions, comme tu le disais, d'art et essai, qui n'existe pas dans le monde du jeu vidéo, ou qui existerait, mais qui est accaparé par des productions qui sont les maîtres étalons du secteur, comme Zelda, par exemple, tu te retrouves le cul entre deux chaises, un peu. Quand t'es dans notre cas, quand t'es dans mon cas, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises.
Peut-être que la différence côté public, c'est que le public de jeux vidéo d'art et essai, entre guillemets, n'écarte pas le fait de jouer à Zelda. Ouais. Alors que le public du cinéma art et essai sera moins intéressé, a priori, par Fast and Furious 13.
Ouais, ouais. Même si, tu vois, tu peux reconnaître à Zelda... une dimension presque un peu quand même aussi à RSC. Enfin, je veux dire...
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est
moins,
le meilleur
exemple. C'est moins hyper formaté que Call of Duty.
Call of, ou...
Ouais. Ouais. Ou FIFA, ou ce genre de jeux qui sont pour le coup là des vraies recettes que tu peux numéroter d'une année sur l'autre. Quoi.
Mais on peut jouer à The Wreck et NBA 2K.
Grave. Mais oui, mais je sais. Alors, il y a aussi la question du prix. Hein. Peut-être que 20 balles, c'est trop cher. Peut-être que... si tu fais partie de cette partie des joueurs qui, à mon avis, n'est pas une frange, hein. À mon avis, il y a beaucoup de joueuses et de joueurs qui sont curieuses et curieux, mais peut-être que quand t'as des revenus qui sont pas hyper extensibles, et que t'as des jeux que tu veux pas rater, qui te coûtent 50 ou 60 balles, peut-être que la place que t'as pour... et que t'as à côté des jeux sur Itch qui sont gratuits et qui parfois te proposent des choses hyper originales et hyper intéressantes, peut-être que le truc entre les deux, 20 euros c'est trop cher pour cette proposition là. Maybe I could just get the hell out of here, get in the car and try to put enough distance between me and her so I can pretend it's not happening to me. I guess if she were here now, she'd tell me it's about time I figured out what I want. Well, Jen, darling, do you want to go in there?
Dans les choses que tu as appris ou les réflexions que tu as suite à ton post-Reddit, suite à la sortie de The Wreck, même tu l'as sous-entendu en début d'entretien, il y a cette idée peut-être de rentrer un peu plus dans une case, on parlait de celle du RPG tout à l'heure, on sent bien dans ce que tu dis que la perspective de seulement sécuriser l'argent de la production, c'est pas ça non plus qui te fait bouger et qui te fait faire des jeux indés. On reviendra sur la question originelle de ton post Reddit peut-être tout à l'heure, mais sur la motivation première de pourquoi tu fais ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette réflexion qui qui vont plus dans la direction de chercher à trouver un public? J'ai pas l'impression que ce soit le fait de vendre, entre guillemets, qui soit la motivation peut-être première, même si ça doit être agréable de pouvoir financer les yeux fermés ces projets suivants, si on a des succès. Mais où est-ce que tu en es dans cette réflexion autour du fait de trouver son public avec un jeu du réel? Parce que j'ai l'impression s'il y a ça, je pense que tu vas pas faire le prochain Vampire Survivor et chercher un public.
J'en serais bien incapable.
Mais où est-ce que tu en es dans tes réflexions sur le fait de faire d'un jeu du réel faire qu'un jeu du réel existe commercialement?
Écoute, tu sais, moi, quand je lis les réactions de certaines personnes à The Wreck, à quel point ça a pu être cathartique pour elles, à quel point ça a pu les renvoyer à des problématiques personnelles, les aider à les appréhender un peu différemment et les soulager. Tu sais, j'aime bien cette idée de enlever de leurs épaules un poids qu'elles ne savaient même pas avoir sur leurs épaules. Je me dis que dans ma recherche personnel en tant que créateur, d'une forme de sens à ce que je fais, et d'une forme de connexion à d'autres êtres humains, l'objectif est atteint. Ouais. Et donc, j'aimerais bien qu'il soit atteint plus souvent. Et j'aimerais bien qu'il soit atteint pour les productions de Pixel Hunt, mais j'irais même un peu plus loin. Moi, mon ambition, ce serait de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, publier ou aider à faire exister d'autres jeux, d'autres créatrices et d'autres créateurs qui ont envie d'explorer la relation entre jeux vidéo et réel. Parce que moi, c'est ce qui me parle, et que je pense que d'autres gens font d'autres choses hyper bien, mais que ça, c'est pas, ça existe pas aujourd'hui, ou très peu. Donc, l'intérêt principal que je verrais au fait de faire un hit, et même un hit modeste, hein, même un hit qui me rapporte, qui me donne juste plus que quelques semaines de visibilité en trésorerie, ce serait de pouvoir faire ça, de pouvoir mettre à disposition d'autres créatrices et d'autres créateurs avec qui on partagerait une forme de ligne éditoriale, des ressources pour que ces créatrices et créateurs puissent, elles et eux aussi, faire des jeux dans cette direction, les proposer au public, et qu'on instaure, au bout d'un certain temps, une... On parlait de label tout à l'heure, c'est un peu cette idée, tu vois, une ligne de jeux qui vont explorer les mille et un rebondissements de l'expérience de la condition humaine. Tu sais, j'étais obligé de lire Malraux pour le bac de français, et malgré tout, j'en ai retenu des choses, et je pense que cette dimension-là de dire... le jeu, même le jeu solo, est une expérience hyper sociale, et donc faire des jeux qui permettent de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit, dans nos émotions, etc. C'est quand même une ambition qui moi me va bien, tu vois, que je trouve belle et chouette. Et donc si je peux gagner assez d'argent pour non seulement continuer moi à le faire et aussi permettre à d'autres personnes de le faire, bah je serais hyper heureux, et c'est pour ça que j'ai pas très envie de juste essayer de financer mes prods, parce que tant qu'on passera pas un palier un peu supérieur, on pourra pas mettre le pied à l'étrier à d'autres. Or idéalement, dans un monde, tu vois, de rêve, on sait bien que la réalité est plus compliquée, mais c'est ce que j'aimerais faire. Ouais.
Justement, tu en parlais en introduction, quand on a parlé de ce qui t'avait motivé à écrire ce post Reddit, et voilà, et tu as parlé des réactions de ce que ça a créé comme discussion avec d'autres créateurs, des choses aussi que tu as apprises à la lecture des réactions, des commentaires, des réflexions qui ont que ton post a généré. Qu'est-ce que t'en retiens, en fait, de cette expérience, de ces discussions? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que t'avais pas vu venir, des choses venues d'autres, ouais, d'autres devs?
Tu sais, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que ma chère et tendre, qui est un puits de sagesse, m'a dit une fois qu'en fait, les choses, tu les sais. T'as juste pas envie de les voir. Mais en fait, si t'arrivais le courage un petit peu de te poser et de regarder à l'intérieur, la plupart du temps, c'est très 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 rare que t'aies une vraie épiphanie, genre je m'étais vraiment pas rendu compte. Ce que t'as fait, c'est que t'as refoulé, quoi. Et je pense que une des choses qui m'est apparue clairement dans les réactions, je te parle pas de toutes les réactions de soutien, parce que elles font hyper plaisir, et c'est cool de se dire, bah, je suis pas tout seul, etc. Mais c'est pas ça qui va te permettre le plus d'avancer. Ça va juste te permettre de te dire, bah, au moins, tu vois, je suis moins seul, mais je suis pas sûr que se confier dans le, oui, on est plein à être incompris, et c'est vraiment terrible ce qui nous arrive, ça puisse nous pousser à trouver des solutions à ce problème. Et je pense que une des choses que je savais, que je sais, et qui m'est apparue plus clairement, c'est la dimension un peu narcissique. C'est-à-dire, quand on fait des jeux du réel, et particulièrement comme The Wreck, des jeux qui parlent un peu de choses qui sont, qui m'étaient à moi proches et intimes, on a l'impression que forcément ça va marcher parce que nous, ça nous a touchés et que ça nous a bouleversés. Mais en fait, la vie, elle est un peu plus compliquée que ça. Et, il faut qu'il y ait ça pour qu'une œuvre puisse toucher, émouvoir et bouger beaucoup de gens. Il faut qu'il y ait aussi des choses un peu plus pragmatiques, un peu plus terre à terre, un peu plus humbles probablement. Et c'est pas genre je vais faire un jeu super et les gens vont me trouver. C'est je vais faire un jeu super et je vais aussi essayer de d'être la machine de guerre marketing que certaines personnes peuvent être, non pas en dévoyant le propos du jeu que j'ai fait, mais en essayant d'adapter des recettes qui peuvent fonctionner par ailleurs le mieux possible à ce que j'ai fait. Là, on se heurte à un autre problème qui est celui du multicasquette. Hein. Les devs indés, ils ont tous 53 chapeaux sur la tête et c'est très fatigant. Donc, à un moment, quand il faut choisir le chapeau que t'as vraiment envie de porter, bah, tu vas choisir le chapeau que t'aimes bien. Et le chapeau de « je vais décortiquer les stratégies marketing et je vais essayer d'en faire ma propre version qui est à la fois fidèle à ma vision et à la fois efficace d'un point de vue pragmatique ». Bah, c'est le chapeau que t'as le moins envie de porter parce qu'il vient souvent vers les deux tiers de la prod où tu commences à être un peu crevé et puis parce que c'est un peu sale, tu vois, c'est quand même plus valorisant narcissiquement d'être dans la création et dans le fait de raconter à quel point on est génial et on est sensible et on a notre propre vision du monde que de dire, ok, comment on va la vendre maintenant parce qu'on a besoin de payer les factures derrière. Et donc, en fait, j'ai eu, tu vois, par exemple, je me souviens d'une réponse d'un mec qui m'a posté un message qui date de l'époque des shareware. Donc, des tout débuts d'Internet, et qui parle de la différence entre le hobbyiste et le gars qui fait vraiment des jeux vidéo. Et dans les traits du hobbyiste, il y avait, il a l'impression d'être incompris, il se plaint, et au bout de un mois, il a lâché l'affaire et il repasse à un autre projet. Et je me suis dit, putain, je me sens vraiment vu, quoi. Je me sens vraiment à poil parce que j'aime pas du tout ça, mais je coche pas mal de cases, là, malheureusement. Donc, je vais essayer d'être moins hobbyiste la prochaine fois. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage. Il y a toute une partie d'un apprentissage qui est une partie qui te plaît. Et donc, tu vas progresser assez vite. Tu vas avoir envie d'y investir du temps et de l'énergie. Puis, peut-être qu'avec une forme de maturité, il y a une partie de l'apprentissage qui te plaît pas. Mais où tu vas te dire, bah, soit j'arrive à m'entourer de personnes à qui ça plaît vraiment. C'est ce qu'on a essayé de faire avec The Wreck. On a bossé avec Mylène Lourdel, qui était incroyable et qui a déployé une énergie folle pour bosser sur la partie marketing et communication autour de The Wreck. C'était probablement un peu trop tard et puis elle peut pas tout faire. Soit t'acceptes toi-même aussi de te dire, bah, dans mon planning de prod, je sais que je vais devoir consacrer du temps à ça, et donc peut-être qu'il y a d'autres trucs que je maîtrise plus et que donc je peux être un peu plus en supervision de quelqu'un d'autre dessus, même si c'est des trucs qui me font plus kiffer et que je dois déléguer pour me consacrer plus à des parties qui me font moins plaisir, mais dont je sais que pour le coup les déléguer va être extrêmement compliqué.
J'ai une petite question qui mature avec ce qu'on a dit avant. On parle de jeux du réel, on parlait du public et du besoin de se retrouver dans des genres, dans des mécaniques connues et familières. À l'inverse, le jeu, il est... je pourrais presque le conseiller à ma mère, en fait. Enfin, il y a quelques jeux comme ça qui... Non, mais je veux dire, c'est un jeu qui ne demande finalement pas beaucoup de savoir en matière de jeux vidéo. On n'est pas sur un truc de skill et... Et est-ce que ce public-là, qui ne connaît pas le jeu vidéo, c'est quelque chose... Enfin, qui pourrait naturellement se retrouver dans The Wreck, dont on voit des liens avec, par exemple, Fleabag, ou des trucs qui ne sont pas du jeu vidéo, mais qui viennent de l'écriture, ou du ton, ou de... Est-ce que c'est seulement un marché? Est-ce que c'est possible de toucher ces gens-là? Ou est-ce, enfin, à tes yeux? Et où est-ce qu'il y a, de toute façon, une barrière qui est toute bête, qui tient au matériel, à ce que tu disais avant, en disant, moi, je ne joue pas aux jeux vidéo. Les gens se disent ça, donc, de toute façon, il y a une barrière qui est... érigé. Ou est-ce que tu penses qu'il y a moyen un jour de péter cette, enfin d'aller au-delà de ces conceptions, quoi.
C'est le sens de mon investissement dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est la reconnaissance culturelle du jeu vidéo. C'est pour ça que je parlais de culture tout à l'heure. C'est vraiment une question de culture. C'est quand tu as décidé que le jeu vidéo c'était pas pour toi. On pourra faire tout ce qu'on veut, tu joueras pas aux jeux vidéo. Et moi, ma mère et ma copine sont mes deux crash tests. Je veux voir si elles arrivent à jouer à mes jeux. Ma mère a joué Enterrement mon amour et ma copine a terminé The Wreck. Et or, c'est les deux seuls jeux vidéo auxquels elles ont joué, à part que ma mère a découvert Candy Crush depuis. Petite parenthèse, le drame. Et donc, je rêve de réussir, et il y a ce public-là, des gens qui jouent pas, et il y a le public des gens qui jouaient quand ils avaient 14-15 ans, et qui ont arrêté de jouer complètement, et qui ont perdu cette habitude, et qui, à mon avis, du coup, peut-être voit le jeu vidéo comme quelque chose de performatif, basé sur les skills, et avec une barrière à l'entrée trop haute, et qui ne savent pas que The Wreck existe. Et on a essayé, tu vois, de s'adresser à eux, on essaye encore, et je veux pas lâcher l'affaire, parce que je pense que c'est vraiment le public qui, moi, m'intéresse le plus. Petit scoop, pour vous, on est en train de travailler sur un portage mobile de The Wreck, et en fait, jouer à The Wreck sur un téléphone, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est hyper simple, on a quasiment rien adapté. Est-ce que ça va permettre à ce genre de personnes d'y jouer, de le découvrir comme ça? Bah, j'espère, on verra. Mais je pense que c'est véritablement, pour moi, la raison qui fait que je fais du jeu vidéo. Et les personnes à qui j'ai envie de parler, c'est « Regardez, en fait, je fais des jeux vidéo et regardez ce que ça peut être. Regardez à quel point ça peut aussi être quelque chose qui vous parle et qui vous parle différemment d'une série télé, d'un roman, d'une BD, mais qui vous parle peut-être aussi intimement que ces formes-là, avec une grammaire un peu différente. » Mais c'est un gros boulot, quoi. C'est vraiment pas... Enfin, en tout cas, ça fait quelques années que je me casse les dents dessus. J'espère que ça va finir par... je vais finir par à craquer le code. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Peut-être que c'est un boss qui est trop... Je suis pas assez stuffé, quoi. Tu vois, il faut que j'aille grind un peu.
On sent toute la discussion tourne autour de ça. On sent qu'il y a, d'un côté, il y a ce marché qui existe, qui est le marché des joueuses et des joueurs. D'où le fait de pouvoir, où tu dis, il faut correspondre à ces attentes-là. On va faire un RPG, on va rentrer dans une case pour continuer à faire du jeu du réel, mais rentrer dans une case identifiée. Et de l'autre, est-ce qu'il y a un monde où The Wreck, tel qu'il est aujourd'hui, fonctionne, marche, soit un succès? Je fais une petite parenthèse, Marius, tu l'as évoqué, mais ça parle aussi, dans ton post Reddit, tu dis, il y avait quand même un accueil presse exceptionnel, on a eu des bonnes critiques, que ce soit à l'international, qu'en France aussi. On se rend compte aussi qu'on ne sert à rien, que tu as vendu moins d'exemplaires que l'audience de Silence en joue. Donc, ce qui veut dire...
Non, les gars, qu'est-ce que vous faites, là?
Non, bah,
je parle aux auditeurs, aux auditrices, là.
Non, mais ce que je veux dire... Après, nous, on a parlé du jeu tel qu'il est, donc on essaye aussi de bien décrire, et qu'après, les gens, ils ont envie ou ils n'ont pas envie d'essayer. Mais ce que je veux dire... Est-ce qu'il y a un monde où The Wreck tel qu'il est, qui continue à ne pas rentrer dans les cases prédéfinies, fonctionne? Est-ce que t'as évolué dans cette réflexion autour de ça?
Ouais, oui, je pense. S'il y a un monde où What Remains of Edith Finch fonctionne, s'il y a un monde où Disco Elysium, malgré le fait que Disco Elysium coche des cases du CRPG à l'ancienne, etc., c'est quand même une proposition tellement délirante. S'il y a un monde où il peut fonctionner, s'il y a un monde où des FMV hyper spécifiques se vendent par dizaines de milliers d'unités, oui, il y a un monde où The Wreck fonctionne. Et c'est là où, tu vois, il faut que je fasse très clairement... mon mea culpa, il y a des choses qu'on n'a pas bien faites. C'est pas juste le public qui est bête. C'est juste il y a des choses qu'on a ratées en fait dans la façon dont on en a parlé, dans les personnes à qui on en a parlé. Si j'avais la réponse absolue, bah, je changerais tout de suite, tu vois, et j'arriverais à. Bon, je l'ai pas. Mais oui, je pense que oui. Je pense que les personnes qui écrivent les 93% de reviews positives sur Steam, c'est pas 93%. D'illuminer en fait, c'est des gens qui pour certains d'entre eux ont joué à The Wreck parce que pour une raison ou pour une autre le marketing qu'on avait mis en place a résonné avec eux et ils se sont fait surprendre et ils ont trouvé que c'était vraiment très chouette et ils pourraient être beaucoup plus nombreux mais il y a aussi manifestement quelque chose. Regarde, un truc qui est hyper parlant, c'est les wishlists. Oui. On a un taux de transformation qui est entre 2 et 3%. J'en parlais avec Johan de Goblin Studio. Goblins, ils font des jeux de stratégie. Ils sont hyper identifiés pour ça. Leur taux de transformation sur la première semaine, c'est plus aux alentours de 25%. Nous, on avait plus de 20 000 wishlists, ce qui est un montant quand même super appréciable. Pourquoi est-ce qu'on transforme pas alors que Johan transforme? Le jour où j'aurais compris ça, bah j'aurais réglé le problème. Mais si il y avait pas un monde dans lequel The Raid pouvait marcher, on n'aurait pas 20 000 wishlists. Les gens wishlisteraient pas, tu vois. Ils se diraient, oui. Bah non, ça a pas l'air, ça a ça pas l'air cool ce jeu, ça a pas l'air bien et tout. Donc.
Et est-ce que déconnecter le fait de jouer, du fait de l'acheter, ça peut participer à. Pour dire les choses clairement, est-ce que une présence sur le Game Pass, sur Apple Arcade, sur Netflix, qui existe et peut toucher potentiellement beaucoup de monde, mais même si on a l'impression que personne ne sait que ça existe, est-ce que c'est quelque chose qui toi t'intéresse a posteriori, t'intéressait a priori?
Oui. Oui, bien sûr. Bah après, la question du Game Pass, elle est épineuse parce que. Est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction? La question n'est pas tranchée, hein, parce que ceux qui le signent vont te dire que c'est super, hein, bien sûr. Ceux qui le signent pas vont toujours se poser la question d'à quel point ça vampirise les ventes potentielles de jeux indés. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul et assez de données là-dessus. Mais bien sûr qu'on aurait bien aimé être sur le Game Pass. Et d'ailleurs, les retours qu'on a eus de Microsoft étaient plutôt enthousiastes. Je pense que par contre, on ne colle pas du tout au profil type des jeux qu'ils prennent. Et que pour être pris malgré ça, il faut avoir une hype parce qu'on est un créateur avec un passif hyper... qui parle pour soi, ou parce qu'on connaît les personnes directement et qu'on a réussi, tu vois, à leur pitcher... en vrai, et qu'ils ont été enthousiasmés par notre vision, que bah, nous, on n'avait pas, pour le coup. Mm. Mais, c'est une des raisons qui ont fait que moi, j'avais envie de faire une version mobile, c'est qu'on va aussi changer de modèle économique, et qu'on va proposer une version qui va être en free to try, donc où tu vas pouvoir jouer, je sais pas encore où on va s'arrêter, mais probablement une heure et demie, donc plus que la démo, tu vas pouvoir jouer gratuitement. C'est un peu qui tout double parce qu'il y a des gens que ça énerve énormément qu'après une heure et demie où ils commencent à être devant, il faille payer et qu'ils viennent du coup te faire une review à une étoile à cause de ça. Donc faut être hyper clair sur attention, ceci est un jeu payant, attendez-vous-y, mais vous pouvez quand même essayer gratos au début. Faut faire hyper gaffe à ça. Mais peut-être que ça nous permettra de toucher un public plus large. Et une fois que t'as joué une heure et demie et que t'as vraiment accroché et que tu sais maintenant de quoi on parle, bah là tu peux peut-être passer à l'acte d'achat. On en reparlera dans un an quand le jeu sera sorti et que j'aurai du recul, je vous dirai.
J'ai eu peur que tu annonces le passage en free to play avec des ventes de cosmétiques et de des ouvertures de coffres tous les jours pour finir The Wreck. Mais...
C'est ça. Non. On avait pensé au free to play pour Enterrement Mon Amour où il fallait payer pour acheter souvenir. Des bouteilles d'eau et tout. Ouais, c'était bien glauque.
Le modèle.
Non, pas de free to play de toute façon, c'est pas. C'est un vrai métier aussi, hein, ça. On s'en moque, on a raison, hein, de s'en moquer. Mais c'est aussi un vrai métier, quand même.
Un mois plus tard, est-ce que tu écrirais le même poste aujourd'hui?
Oui, si je ne l'avais pas fait, je le ferais, parce que je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est hyper important de partager, en fait, ces émotions. Et parce qu'on a très peu parlé de la deuxième partie du poste, qui, pour moi, est la raison pour laquelle j'ai écrit ce poste.
Mais c'est la vraie question. Pourquoi diable est-ce que tu fais des jeux vidéo?
Mais oui, tout le monde me parle de la première partie parce que c'est la partie drama, tu vois, c'est le hook. Mais moi, la vraie chose que j'avais envie de partager, c'est ça, c'est... J'ai quand même débarqué dans le jeu vidéo sans savoir programmer, sans savoir dessiner, sans savoir rien faire des métiers cœur du jeu vidéo, mais parce que j'avais l'impression qu'on était à un moment du jeu vidéo où... qui était un peu béni, qui était à la fois le moment où on a les outils pour pouvoir faire des jeux... assez ambitieux avec des toutes petites équipes et à la fois un moment où il y a plein de choses qui restent à explorer, qui n'ont pas été faites ou qui n'ont ont peu été faites et que les gens qu'on peut faire découvrir aux gens. Donc je vais pas non plus me plaindre, et c'est pour ça que je dis c'est pas un poste de chouinard, c'est pas un poste où je dis ouais, j'en ai marre, je vais arrêter le jeu vidéo. Au contraire. Au contraire, c'est un poste où je dis non mais ouais, on a vraiment raison, c'est pas une question rhétorique le titre. On a vraiment raison de continuer à faire des jeux indépendants, mais il faut se rappeler pourquoi on les fait. Et il faut se rappeler qu'est-ce que c'est notre motivation. Et moi, ma motivation, bah, elle est d'essayer de trouver de craquer ce code. Comment on fait pour à la fois parler de choses qui sont parfois personnelles, parfois intimes, souvent dans l'émotion et toujours dans le réel et l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain et être vivant, comment on fait pour faire des jeux qui parlent de ça et toucher un public avec ? Comment est-ce qu'on fait pour reproduire ce que le cinéma a fait avec le drama, ce que la littérature a fait avec 90% de la littérature française et une bonne partie de la littérature mondiale qui est de parler de son expérience au monde et que la bande dessinée a fait avec ce qu'on a appelé le roman graphique, mais qui est en fait de la bande dessinée qui parle de la vraie vie, quoi, en fait, hein, souvent. Et qui s'appelle pas bande dessinée pour que les quadras n'aient pas honte quand ils sortent de la librairie avec leur sac, qu'ils puissent dire « Mais non, chérie, ça n'est pas une bande dessinée, c'est un roman graphique, tu vois. » Bon. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça avec le jeu vidéo? Et voilà, ça, c'est... Moi,
faut
c'est
changer
un peu...
de nom. Faut changer de nom. On trouve un nom.
Mais ce serait dommage.
Roman ludique, tu vois, c'est un truc...
ce serait dommage parce que, comme vous le disiez, je pense que dans les joueuses et les joueurs, les vrais, les gamers, quoi, en fait, il y en a plein qui pourraient accrocher à The Wreck. Et c'est à nous de trouver comment on fait pour qu'ils aient envie de donner la chance à ce genre de jeu. Donc, pourquoi est-ce que moi, je fais des jeux vidéo? C'est pour ça. C'est parce que je pense que le média est trop génial pour ne pas explorer cette dimension le plus possible et pour ne pas essayer de faire en sorte de créer des jeux qui explorent cette dimension et qui trouvent un public.
Dernière question, après j'arrête, mais pour rebondir sur cette question de la BD, est-ce que on n'est pas à l'équivalent du début des années 90 et de l'émergence de l'association, et que ce qui manque, c'est un Persepolis qui viendrait péter un peu le plafond de verre. Est-ce qu'un seul titre peut ouvrir la voie à l'émergence d'une scène un peu structurée autour de...
Le problème des jeux vidéo, c'est que ça marche bien. Non, mais c'est pas une blague. C'est que les enjeux commerciaux autour des jeux vidéo n'ont rien à voir avec les enjeux commerciaux autour de la bande dessinée. Ce qui a permis à l'association d'exister, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. Et que donc, en fait, ils ont eu cette position un petit peu radicale de dire « on va être l'association et on va être l'association jusqu'au bout ». Qu'est-ce qui se passe quand un publisher fait ça dans le jeu vidéo? Quand un développeur arrive et qui dit « mais nous, on va être les punks du jeu vidéo et on va faire des trucs un petit peu de sale gosse, etc. », ça finit par bien marcher, ils finissent par rentrer en bourse, ils finissent par avoir tout un board qui leur dit « c'est la rentabilité à deux chiffres », et ils finissent par se transformer en une énorme boîte. Et tant mieux pour eux, c'est hyper cool pour eux, c'est super, etc. Mais aujourd'hui, Devolver n'est plus la structure qu'elle était il y a encore 2 ou 3 ans. C'est pareil pour Rofuri, c'est avec une situation un peu différente due au fait qu'ils sont adossés à un studio de production de films pas très loin avec Annapurna. Ce qui nous manque, c'est des structures qui seraient plus petites que ça et qui n'auraient pas pour objectif et ou ne seraient pas transformées par le marché en structures qui doivent vraiment grossir et devenir costauds. L'association, depuis les années 90, c'est toujours pas devenu un mammouth de l'édition.
Non.
Et ça le deviendra jamais. Et pour autant, ils ont révolutionné la phase de la bande dessinée en France, je pense. C'est pas si la... je connais pas assez bien le monde du cinéma pour pouvoir voir si la comparaison est apte. Est-ce qu'il existe des petites boîtes de prod qui n'ont jamais grossi et ont utilisé leur succès pour continuer à rester fidèles à une certaine vision qu'ils avaient de la direction dans laquelle ils voulaient faire évoluer leur art et leurs médias? Peut-être. Je connais pas assez bien le sujet pour savoir si c'est le cas.
Mais donc du coup, C'était pas un poste défaitiste.
Non. Spoiler, je suis toujours là.
Spoiler, non. Et juste parce que c'est vrai que nous, on était arrivés à un point avec Fortage dont on a parlé, avec Flatile dont on a parlé, avec d'autres jeux, avec The Wreck, avec se dire est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle? J'ai l'impression, à t'entendre, on est plutôt au début, là où on défriche. On est encore là où on défriche, en fait.
En fait, le truc des cycles, c'est qu'ils sont cycliques. Et du coup, quand on est à la fin d'un cycle, on est au début d'un autre. Hein. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Je pense que très clairement, tu vois, là, j'étais à Addon la semaine dernière, qui était une rencontre de professionnels du jeu vidéo. Et c'était morose. Tout le monde faisait le même constat que les robinets à argent facile, qui étaient un peu ouverts avec le Covid et le fait que le jeu vidéo, pendant le Covid, c'était, ça a eu quand même pas mal le vent en poupe, se sont refermés. Que convaincre des publishers aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a un an et demi, deux ans. On va probablement faire face à une vague de studios qui vont fermer. Même si de toute façon, en temps général, il y a beaucoup de studios qui ferment après leur premier jeu. Hein, c'est pas. On est à la fin d'un cycle très clairement. Et c'est pas facile en fait de garder un peu la foi et de se dire bah non mais si on va quand même continuer. Mais quel autre choix a-t-on? Moi, j'en ai pas. Je sais pas. J'ai construit un peu toute ma vie là d'aujourd'hui autour de cette activité. Et donc, voilà. Si ça marche pas, le choix que j'aurai, c'est de partir complètement de l'industrie. Et c'est peut-être ce qui se passera. Mais en attendant, il faut creuser le sillon et il faut essayer de se dire que qu'il n'y a pas de raison. Tant que je vois pas de raison objective à ce que j'essaie de faire ne puisse pas fonctionner. Et malheureusement, en fait, il y a déjà eu What Remains of Edith Finch qui a prouvé qu'en fait ça pouvait fonctionner, donc ça peut fonctionner. Donc tant que j'ai pas réussi à le démocratiser, je peux pas m'arrêter en fait. Faut que je continue.
Eh ben merci beaucoup, Florent, pour cette discussion qui quand même se termine sur une note positive. On a hâte de découvrir le début du prochain cycle parce que ça va redémarrer et puis de découvrir les prochains jeux du réel. On a envie de jouer à d'autres The Wreck, même avec des caractéristiques à monter et des points d'expérience, ça nous gêne pas. On a envie de jouer à d'autres jeux comme ça quand même.
Je vais essayer de trouver le bon équilibrage. J'aimerais bien que ma mère puisse toujours finir mes jeux et en même temps que d'autres personnes puissent aussi s'y intéresser.
C'est le but. On continuera en tout cas à suivre tout ça dans Silence on joue. À très bientôt, Florent.
Merci beaucoup.
Ciao ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.